c'est la chronique de Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, on commence par l'Alberta qui gèle sa taxe carbone pour grands émetteurs.
Oui, puis vous allez voir, on va faire une petite comparaison avec le Québec, ça peut être surprenant. Donc l'Alberta charge 95 $ la tonne pour les grands émetteurs. Les grands émetteurs, c'est qui? C'est les grands émetteurs industriels de l'industrie chimique, énergétique, possiblement transport, qui sont définis un critère rigoureux, si vous voulez. Là, c'est des émetteurs qui émettent plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre, de GES, par année. Donc, on gèle la taxe à 95. L'an prochain, elle devait augmenter à 110 pour atteindre en 2030 170, qui était, disons, de concert avec ce que le gouvernement Trudeau avait prévu à l'époque. Pourquoi l'Alberta fait ça? Ben, on dit que ça enlève de l'incertitude pour l'industrie. Certainement, ça enlève de l'incertitude pour les grands émetteurs. Mais je vais revenir tout à l'heure, on va voir qu'il y a d'autres gens qui sont affectés peut-être de façon adverse avec ce gel-là. Mm-hmm. Mais avant, je voulais comparer juste avec le Québec. Donc, souvent, on accuse l'Alberta de bafouer ou pas se préoccuper trop de l'environnement. On charge 95 $ de la tonne pour des grands émetteurs, encore une fois, ceux qui sont en haut de 100 000. Qu'est-ce qu'on fait au Québec? Nous, au Québec, ce n'est pas une taxe, c'est le marché du carbone. On en a déjà parlé. Puis le prix actuellement sur le marché du carbone est à la dernière enchère de février, est à 41 $ la tonne. C'est moins que la moitié de ce qu'on fait en Alberta. Par contre, plus d'émetteurs sont touchés. Les grands émetteurs au Québec, ce sont ceux qui émettent plus de 25 000 tonnes par an. Donc, on touche plus de monde, mais on charge beaucoup moins cher pour la tonne de GES émise.
Bon, est-ce que ça s'équivaut au bout du compte?
Ben, ouais, là, il faudrait regarder, je n'ai pas les chiffres, savoir. Certainement, pour ceux en haut de 100 000 dans les deux provinces, en Alberta, c'est 95 versus 41. Donc, l'Alberta charge beaucoup plus. Par contre, l'Alberta, c'est zéro pour, on charge zéro pour ceux entre 25 et 100 000 tonnes par an, alors qu'au Québec, c'est 41 $. Il faudrait voir la pondération des deux pour voir la quantité de tonnes qui est effectivement taxé là, dans les deux provinces. J'ai malheureusement pas ces chiffres-là, mais ça serait effectivement intéressant de regarder.
Ouais.
Peut-être la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que la tarification carbone, quand on a commencé à donner un prix sur le carbone, il y a toute une industrie qui a pris naissance, l'industrie de capture du carbone. Alors, cette industrie-là, ce qu'elle fait, c'est réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère de différentes façons. Soit on va le chercher directement dans l'atmosphère. Il y a des techniques là-dessus. Là, il y a des gens qui investissent et qui essayent d'innover dans ce sens-là. On pourrait planter des arbres, puis on le sait, les arbres captent le carbone de l'atmosphère, ou investir dans des énergies renouvelables. Puis toutes ces personnes-là, ces industries-là ou entreprises faisaient de l'argent comment? Mais en sauvant, en captant le carbone ou en épargnant du carbone, bien, ils étaient capables de vendre leur effort d'épargne à des pollueurs au prix du marché du carbone, si vous voulez. Alors, ces industries-là se développaient en s'attendant à ce que le prix du carbone, par exemple, en Alberta, remonte à 110 $ l'an prochain, 170 en 2030. Puis là, la première ministre, Mme Smith, vient nous dire que ça va être gelé à 95. Alors, pour ces gens-là, dans l'industrie de la dépollution, ben, c'est une moins bonne nouvelle. Peut-être qu'on peut rappeler que c'est le fédéral qui a lancé l'initiative de taxer le carbone, je dirais hors Québec, là, parce que l'initiative fédérale est venue après le marché du carbone québécois. Et puis là, les provinces avaient le choix de soit d'adopter le système fédéral de taxation du carbone ou de développer leur propre système, mais qui devait respecter les normes fédérales. L'Alberta a son propre système, donc on taxe les grands émetteurs, mais le gel, la possibilité de geler, ça ne respecte peut-être pas les normes fédérales. Donc, comment va réagir le fédéral? Ça va être intéressant à suivre. si je ne me trompe pas, je pense que c'est aujourd'hui que M. Carney va nommer son nouveau cabinet.
Oui, alors, et c'est pas mal déjà fait, là. Vous ne vous trompez absolument pas. J'en ai d'ailleurs déjà parlé. Parce qu'on a déjà nommé plusieurs ministres, de nouveaux visages, et j'essaie de trouver le ministre de l'Environnement la ministre de l'Environnement.
Oui.
Alors, continuez. Okay, ah oui, bien moi, je vais continuer avec une autre question, à moins que vous ayez terminé là-dessus.
Non, mais c'est ça. Donc, on va voir comment... puis peut-être juste une petite précision, on se demande ben, comment ça qu'on taxe encore le carbone. Carney avait aboli la taxe carbone. Il faut comprendre qu'il y a comme deux volets à la taxation du carbone. Il y avait la taxe sur les combustibles, l'essence, et puis c'est cette taxe-là que M. Carney a aboli, peut-être sous pression des conservateurs durant la dernière campagne électorale. Par contre, le deuxième volet, qui était de taxer les grands émetteurs, lui était resté en place. Puis c'est de celui-là dont on parle aujourd'hui.
D'accord. Michel, j'ai le nom. C'est un nouveau visage, l'entrée en scène de Julie Dabruzin à l'environnement et au changement climatique. Donc, elle s'appelle Julie Dabruzin.
Mais certainement, il va y avoir des développements dans les prochains mois au niveau de la taxation du carbone. Là, M. Carney, je pense, en campagne, il avait promis qu'il abolissait la taxe carbone, mais il mettrait en place un nouveau système. Ça va être à suivre. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, dans la mesure que ça va évoluer.
Oui. Et on a beaucoup parlé aussi de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le Québec semble avoir de la difficulté à gérer ses infrastructures.
Mais oui, malheureusement, ce triste épisode de l'hôpital n'est pas sans rappeler les moisissures qu'on avait dans les écoles. Rappelez-vous, il y a quelques années, où ce qu'on vit à tous les
champignons.
Jours. Là,
ouais.
Pardon?
Les champignons,
ben, c'est ça. Puis l'état des routes également. Puis c'est ça, le gouvernement ne semble pas capable de s'engager à entretenir ces infrastructures. Puis je dirais, c'est pas un problème québécois. Je pense que ça se retrouve à beaucoup d'endroits. Puis c'est vraiment un problème d'engagement. Là. À chaque fois que les gouvernements se trouvent à vouloir couper, puis en ce moment, on a l'impression qu'au Québec, ça va être ça suite à la décote là, de la décote financière du Québec. Probablement qu'on va encore couper dans les infrastructures. Puis pourquoi les gouvernements font ça? Bien, souvent, l'effet n'apparaît que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc, c'est très loin dans le cycle électoral. Donc, moi, je dis, ce que le gouvernement devrait faire, c'est appliquer sa propre médecine qu'il a concoctée pour les condos. Les condominiums ont un peu le même problème. Là. Souvent, on reprochait aux propriétaires de ne pas payer assez de frais de condominium, puis qu'à un moment donné, les infrastructures avaient besoin de sous, puis les propriétaires n'avaient pas d'argent. Alors, le gouvernement s'est mis à leur place, veut dire, on va vous forcer à avoir un fonds de prévoyance pour vos infrastructures, puis ce fonds-là, qui est établi en fonction de l'état des infrastructures, doit être bien garni. Et donc, à chaque mois, en avance, il faut que les copropriétaires contribuent au fonds de prévoyance. Je pense que le gouvernement devrait s'appliquer la médecine qu'il a inventée pour les condominiums, puis avoir légalement à être obligé de contribuer à un fonds de prévoyance pour toutes les infrastructures du Québec. Donc, ça le forcerait à chaque budget à mettre de l'argent de côté pour les infrastructures. Puis je pense qu'on vivrait moins les drames comme on a vécu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou dans les écoles, puis nos routes seraient en meilleur état.
Mais
ça
merci.
Imposerait une rigueur budgétaire, mais en même temps, on a besoin de nos infrastructures.
C'est sûr. Merci beaucoup, Michel, pour tout ça. Bon. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne journée, profitez-en bien, là, c'est l'été.
Oui, il y a un beau soleil.
Oui.
Au revoir.